Bon, vous m'entendez comme ça?
Oui.
Ça va, bon. Alors, on vient de faire un rite bien significatif, hein, et qui correspond bien avec ce que nous allons commémorer ce soir, hein, le cinquantenaire de cette déclaration de Nostra Aetate, du chapitre 4 de Nostra Aetate, qui, à cette occasion, l'Église a reconnu que cette lumière... elle n'est pas éteinte, cette lumière que nous avons allumée, là, la lumière portée par le peuple juif. On avait cru pendant des siècles qu'elle était partie en fumée, il n'y en avait plus. Eh bien non, c'était donc un grand changement. Donc je vais parler de... dans le temps qui m'est... trois quarts d'heure, hein. Ah oui, c'est une torture, bon. Je vais évoquer donc ce moment du concile. Alors je donnerai quelques préliminaires et si possible ensuite voir ensuite la portée du texte et pour aujourd'hui quelques perspectives si on peut le faire. Les préliminaires. Bon, les amitiés judéo-chrétiennes sont nées, nous savons tous, hein, après, disons, après la guerre, après la Shoah, hein, les chrétiens se sont retrouvés, chrétiens et juifs, se sont retrouvés à Seligberg, en Suisse, pour se dire, bon, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça a donné ces fameux 10 points de Seligberg, où déjà, les chrétiens, en dialogue avec les juifs, disent, ben voilà, hein, ce qu'il faudrait corriger dans notre regard sur les Juifs. 10 points importants, ne pas nous vanter, ne pas mettre en valeur l'Église ou la chrétienté en rabaissant les Juifs, par exemple. Et puis surtout, ne pas accuser les Juifs du meurtre de Jésus, tous les Juifs aujourd'hui, ce qui a été fait pendant des siècles avec les conséquences qu'on sait. Voilà, alors là, donc ceci a fait son chemin. À la veille du concile, Jules Isaac, donc un professeur juif, hein, qui a écrit l'enseignement du mépris, hein, que tout le monde connaît, va trouver Jean 22, qui vient d'être nommé pape, hein, et il lui demande qu'est-ce que l'Église pourrait faire, hein, pour redresser cet enseignement chrétien qui a été tellement catastrophique. Et le pape Jean 23 lui répond « Vous avez droit à plus que de l'espoir. » C'est ce qui s'est réalisé. Jean 23 avait été délégué apostolique en Turquie pendant la guerre. Il a fait une retraite chez les sœurs de Sion. Il a constaté les persécutions contre les Juifs et il a agi pour en sauver le plus possible. Dès qu'il est pape, il supprime la mention pro de la prière pour les Juifs de pro perfidis judaïs. Hein, prions pour les et orimus pro perfidis judaïs, etc. Hein, ces Juifs, à leur perfide, qui n'ont rien compris, évidemment. Le mot perfide signifiait pas forcément le sens qu'on lui donne aujourd'hui. C'était non-croyant ou incroyant, qui abandonne la foi, hein, perfides. En fait, c'était perfidis, quoi. Et on priait pour qu'ils soient éclairés de leur aveuglement. Donc tout ceci a changé. Et il y a eu une très belle prière qui a été faite ensuite plus tard avec Paul VI, contre laquelle il n'y a rien à dire. Malheureusement, Benoît XVI, étant un peu obsédé pour réintégrer les intégristes, leur a quand même permis une sorte de prière très ambiguë. Bon, enfin, la prière que l'on dit officiellement est belle. Alors, Nostra Aetate, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous allez voir que si vous ne connaissez pas trop l'histoire de ce texte dans les premières années 60 jusqu'en 65, vous allez voir que c'est très accidenté. Enfin, il y a beaucoup d'oppositions nombreuses. Alors, un premier texte avait été proposé au père, dès le début du concile, ce texte va être refusé. Notons plusieurs interventions marquantes dès avant le Concile. L'Institut biblique de Rome, hein, c'en est une, ça, qui demande qu'on en traite dans le Concile la question juive. Alors, rénover la catéchèse, hein, selon laquelle Dieu aurait rejeté son peuple, qu'il serait maudit, condamné à l'errance, correction de ce passage de saint Matthieu, de l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 25, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors on en a fait ça une malédiction du peuple juif à jamais, alors que ça a un tout autre sens. Et à la limite, on pourrait éventuellement, en faisant un peu de midrash, en prendre le sens contraire. Voilà. Bien. Bon, ce texte reconnaît encore que l'Église est le véritable Israël. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut avancer doucement. Des États-Unis, un autre texte en 60, de l'Université catholique de Seton Hall, remis par le Monseigneur Österreicher, un juif autrichien qui a fui l'Autriche sous le régime nazi et qui a fondé un institut pour l'étude du judaïsme. Ensuite, d'autres signatures s'ajoutent, au moins 15 prêtres. L'Église ne se substitue pas à Israël. Elle reçoit les privilèges d'Israël par participation. C'est déjà autre chose que substitution, bien sûr. En Hollande également, en Hollande, un texte qui parvient d'un groupe de Hollandais. On note le patrimoine commun. Ça sera un texte de Nostra Aetates, hein, notre patrimoine commun qui est déjà là. Hein. Un destin solidaire, hein, marqué par l'espérance finale de l'unité du peuple de Dieu. Hein. On voit la fin là, là aussi. Hein, c'est la perspective finale. Jésus n'est pas seulement celui qui sépare les Juifs, mais celui qui les unit, hein, le plus profondément. On note le retour du peuple juif à sa terre. Alors là, ça va être un thème qui va parcourir tout le Concile, mais qui va être sujet à débat continuellement. Voilà. L'Église est le peuple de Dieu élargi par la Nouvelle Alliance. Là aussi, ce n'est pas substitution, on est introduit, on est accueilli dans cette alliance. Voilà. Alors, le texte premier proposé donc au Concile va être rejeté et on va mettre le document de nouveau en chantier, dès le départ. On a des craintes. Hein, craintes qu'on fasse une interprétation politique du document. Interprétation politique, pourquoi c'est Israël ? Israël qui est installé, le peuple juif qui est installé en Israël. Et on a des chrétiens du Moyen-Orient, d'Orient, qui viennent de là et qui vont être très, très, très méfiants tout du long. On demande un texte plus court qu'on va introduire dans le schéma sur l'Église. On va chercher sa place à ce texte. Hein. Schéma, bon, ici, ça va être au départ sur l'Église. Dès le départ, ça coince à la commission centrale préparatoire, avec ce texte sur les Juifs, tout ce qui est dit là-dessus. On craint le secrétaire d'État, qui est le cardinal Amleto Cicognani, retire le texte de l'ordre du jour à cause de dangers de récupération politique. Vous voyez, c'est l'État d'Israël, alors si on parle des Juifs... protestation des... On raconte même qu'il y aurait eu un fonctionnaire des affaires religieuses d'Israël qui aurait participé au Concile. C'est des craintes, c'était faux, ça n'a pas existé. Cicognani, vous allez voir comme le cardinal Cicognani saisit le problème. Voilà ce qu'il dit. Les Juifs et tous ceux qui sont hors de l'Église savent qu'on les accueillera d'un grand cœur s'ils désirent embrasser la foi catholique. Alors tout va bien. Bon, pas besoin d'en parler. Oui. Donc le texte n'est pas soumis à la première session du Concile. Pendant ce temps-là, à la suite de cette première session, les sœurs de Sion sont très actives. Elles racontent celles qui ont été, ou enfin, qui ont connu, hein, elles font des réunions, on va voir du monde, etc. Voilà, deuxième session. La première session étant donc de 62, en fin 62. Hein. Alors la deuxième session va être du 29 septembre 1963 au 4 décembre. On rattache le texte, cette fois, à l'écuménisme. Oui, il était dans l'Église d'abord. Bon, ça se défend. Puis, l'écuménisme. On supprime la condamnation de l'accusation de déicide. C'est-à-dire, dans le premier texte, on parlait, faut arrêter de dire que les Juifs sont coupables de déicide. Qu'est-ce que ça veut dire, tuer Dieu? Alors évidemment, il n'y a rien de pire. Enfin, c'est pas possible, d'une part. Mais enfin, si on y pense, évidemment. Alors si c'est les Juifs qui ont fait ça, c'est affreux. Hein. Eh bien, certains refusent qu'on condamne cette vision-là, qu'on la supprime, voyez, qu'on dise, faut pas dire que on n'accuse plus. Voilà. On ne va pas dire qu'on les accuse de déicide, surtout pas, on n'en parle pas. Voilà. Le texte est quand même vigoureusement refusé par trois patriarches des églises orientales, les Syriens, Melkites et Coptes, et par une minorité conservatrice. Des tracts antisémites circulent dans l'Assemblée. Voilà. Ah oui. Le plan de ce texte, ça va être trois chapitres sur l'écuménisme. Au chapitre 4, relation aux non-chrétiens et avant tout aux juifs. Et enfin, chapitre 5, sur la liberté religieuse. Là aussi, la liberté religieuse va être un texte difficile à faire passer. Tout ce qui est un peu ouverture. Hein. Le texte est diffusé le 8 novembre 1963. On insiste pour dire qu'il n'a pas de valeur de sens politique. On dit que la responsabilité principale de la mort du Christ incombe à toute l'humanité pécheresse. Et la faute du peuple juif ne peut pas être imputée à tous les contemporains, encore moins aux descendants actuels. Béa présente ce texte. Intitulé « Du rapport des catholiques aux non-chrétiens et principalement aux juifs ». Il dit que ce texte a été voulu par Jean 23. On aborde le reproche qu'on est porté à faire aux chefs d'Israël d'avoir condamné le Christ, mais on souligne les pardons du Christ. Le texte apparaît nécessaire du fait de l'antisémitisme apparu en plusieurs pays, et le cardinal Béa est un Allemand qui a connu ça, hein, qui a connu cette guerre, donc il sait très bien de quoi il parle. On fait le lien avec l'écuménisme. Donc ça va rentrer dans le schéma sur l'écuménisme. On avait pensé à l'Église, bon, l'écuménisme. Voilà. Vu l'opposition des évêques du Moyen-Orient, qui craignent des représailles contre les chrétiens à cause d'un texte qui pourra être interprété comme un appui à l'État d'Israël, le texte est retiré. Béa le retire en invoquant le manque de temps. Mais il y avait d'autres problèmes aussi. Alors, l'intercession entre les deux sessions, donc de fin 63 jusqu'à l'automne 64, il va y avoir encore deux textes. Donc un troisième texte, beaucoup plus faible. On supprime les références à Saint-Paul, ou du moins elles sont bien affaiblies. Pourtant, c'est là qu'on avait les seuls textes bibliques permettant de démarrer quelque chose. La commission de coordination du concile au sommet demande quand même une nouvelle version plus orientée vers le dialogue avec les autres religions. C'est souvent ça, hein, quand on va parler des juifs, ah oui, mais il y a les musulmans, puis il y a tout. Bon, c'est peut-être un bon signe d'ailleurs, hein, mais c'est quand même pas du même niveau, hein, du tout. Donc le secrétariat se remet au travail pour un quatrième texte. Il y a des débats pendant cette intercession entre donc de 63-64. Paul VI dit qu'il voudrait apporter des modifications, des objections théologiques. Alors une d'importance, Comment accorder cette déclaration qu'on veut faire sur les Juifs avec les traditions des Pères? Parce que quand vous lisez les traditions des Pères de l'Église, quand ils parlent des Juifs, c'est toujours défavorable, quoi. Ils n'ont rien compris, ils se sont trompés, c'est plus nous, c'est plus eux maintenant, c'est nous. Les idées de rejet, de substitution. Alors Dieu merci, il n'y a jamais eu de déclaration de type conciliaire ou d'encyclique écuménique absolument qu'on ne peut pas rejeter pour dire que les Juifs sont hors de l'élection, etc. Il n'y a jamais eu ça. Mais une masse de textes constamment défavorables aux Juifs, quoi. J'ai presque à pratiquement tous les pères de l'Église, hein, et les plus grands. Donc, problème, hein, tous les textes du Concile, je les ai ici, là, qui a regardé là, les notes, il y a des références constantes aux pères de l'Église. Dans ce paragraphe sur Nostra Aetate, sur les Juifs, on ne trouve que la Bible, et en particulier saint Paul. On ne trouve pas un père de l'Église. Alors, quand on... Vu que, continuer sa tradition et la reprendre, normalement, on reprend tout ce qui était dit avant. Enfin, on ne raye pas le passé. Là, il va falloir revenir au départ. Il va falloir revenir aux sources. Donc ça fait une mise en cause de soi pour repartir de façon nouvelle, assez exceptionnelle. Et c'est ce que reconnaissent ces cinq signataires de ce texte que vous venez d'avoir, hein, sur le jubilé de fraternité, là. Voilà. Alors, les débats, donc, continuent, donc, dans cette intercession de 63-64. On va dire que si on donne trop de place aux Juifs, dans ce schéma, ça va dévaluer la place donnée aux orthodoxes. La majorité des évêques appuient le texte. Beaucoup appuient le texte, hein, même des grands noms comme Spellman, le cardinal Inan, archevêque de Westminster en Angleterre. De nouveau, on demande d'éliminer la référence explicite au déicide. Alors, proposition d'un cinquième texte. Le ton est plus réservé vis-à-vis des Juifs. La communauté juive proteste vigoureusement auprès du cardinal Béat de voir ce ton extrême trop réservé. En contrepartie, les patriarches orientaux ne désarment pas. Ils préparent une opposition très concertée. Alors, la troisième session, 1964, fin 1964, à l'automne toujours, le cardinal Béat arrive à quand même, malgré les oppositions, a proposé ce cinquième texte, et bon, il le défend, une majorité suit, mais les patriarches orientaux ne désarment pas, toujours. On découvre, dans plusieurs interventions des pères, des relents de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, disons, c'est peut-être plus juste de parler d'antijudaïsme, du 19e siècle et du début du 20e. Béat souligne l'importance de ce texte au regard de l'opinion publique, car les journalistes, les lecteurs dans le monde vont être spontanément beaucoup plus intéressés par ce texte sur les Juifs qui a une actualité évidente que sur la réforme liturgique de l'Église catholique, qui est une affaire tout à fait intérieure, tandis que le problème des Juifs, ils sont plantés quelque part et ça pose des problèmes aussi au plan politique. Voilà. Toujours la question d'aborder la responsabilité du peuple juif pour la mort du Christ, qui revient assez constamment, hein, avec la question du déicide. Dans les débats du Concile, le cardinal Liénard, évêque de Lille, est favorable à ce texte, bien sûr, et comme il est ancien, il intervient régulièrement le premier, il appuie le texte et ça donne un petit peu une orientation. Mais le cardinal Siri de Gênes, qui représente les évêques du Moyen-Orient, exprime la crainte de représailles en Orient. C'est cette peur des chrétiens d'Orient, hein, si on parle trop des Juifs. Le cardinal Ruffini de Palerme aussi exprime une grande réserve face au ton très positif envers le judaïsme. En somme, on fait trop de louanges aux juifs, on leur en donne un peu trop, quoi. On fait trop de compliments. Voilà. Il exclut l'accusation de déicide, mais simplement parce que philosophiquement, l'idée de tuer Dieu est une absurdité. Bon, mais à part ça, il la garderait bien, quoi. Voilà. Alors, aussi, on fait des exhortations à l'amour, hein, qu'on propose aux chrétiens. Alors, il dit qu'il faudrait peut-être les faire aux juifs, celle-là. L'exhortation à l'amour. Hein. Faire la leçon aux autres. Quoi. Voilà. Pour d'autres, il souligne l'importance de prendre position, en particulier à cause de la Shoah. Le cardinal Hinnan d'Angleterre, je crois. Hein. Sous la forme actuelle, le texte que vous avez entre les mains n'est pas de nous. Je ne sais pas quels sont les experts qui ont rédigé ce texte, mais laissez-moi vous le dire en toute franchise, ce sont des experts inexpérimentés. On se dispute, voilà. Hein. Bien. Alors finalement, il y a tel problème. On dépouille les observations des pères. B.A. reçoit une lettre du secrétaire général du Concile, de cardinal Felici, qui lui dit « On a tenu une réunion avec le Conseil de la Présidence, la Commission de coordination et les modérateurs, dont toutes les instances directrices, et on va dire que la déclaration sur les Juifs va être traitée en quelques lignes dans la Constitution sur l'Église. » Autrement dit, il n'y en a plus. On en parlait, puis ouf, enfin, débarrassé de ce texte dont on ne sort pas. Et même le texte sur la liberté religieuse est menacé. Mais tous ces textes d'ouverture. Hein. Donc, B.A. écrit au pape, évidemment, et 13 cardinaux vont écrire une lettre. Hein, ce n'est pas sans une grande douleur, etc., etc. Bon, finalement, les discussions vont vous reprendre. Voilà. Alors, on va accepter une sixième version et proposer le 18 novembre 64. Avec un vote favorable. On peut entrevoir une issue favorable, mais les manifestations dans les capitales continuent. Il y a des manifestations dans les capitales arabes, et on appuie les patriarches orientaux. Donc la minorité conservatrice est toujours active. Au bout du compte, on va, dans le texte définitif, qui n'est pas encore là, mais on va supprimer la suppression de l'accusation de déicide. On n'en parlera pas. Alors que, bon, ça a été tout le temps en question. Alors, le sixième texte, cette sixième version est intégrée dans les religions non chrétiennes. C'est d'ailleurs le texte, c'est maintenant qu'elle est, c'est là qu'elle s'y trouve, hein, les religions non chrétiennes. Assez accepté, ça va. Alors, il y a l'introduction d'une première phrase qui commence en latin, « Mysterium ecclesiae perscrutans », ça va être le début du chapitre 4, enfin, le début de ce passage de Nostra Aetate. Et là, c'est le père qui a trouvé cette phrase, on peut lui donner une médaille quand même. Et elle est très riche, cette phrase, on en reparlera, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, dernière intercession, entre les deux, l'avant-dernière session et la dernière session du Concile, donc c'est entre fin 64 et l'année 65, de nombreuses démarches, ça bouge. La réintroduction du déicide qu'on essaye de faire provoque des réactions hostiles au Moyen-Orient, ravive les craintes de la secrétairerie d'État, autant que il y a des rumeurs qui disent que les catholiques orientaux pourraient passer à l'orthodoxie. Alors si on se vide nos troupes pour faire plaisir aux juifs, hein, est-ce qu'on va aller jusque-là? Le patriarche Melkite Maximus IV laisse entendre que si le texte est voté, il ne reviendra pas au concile. Alors toute une partie de l'Église, là, peut-être pas au nombre le plus important, mais enfin c'est quand même. Hein, il ne reviendra pas. Béa réagit, mais ça ne suffit pas. L'évêque de Senier publie deux articles justifiant l'accusation de déicide contre le peuple juif. D'un point de vue théologique, pas raciste. Bon, alors, prenons-le comme on veut. Il y a des événements qui se posent, qui se passent à ce moment-là. Paul VI va son voyage à Bombay, il rencontre des représentants des religions non chrétiennes. En tout cas, en 65, au printemps, la situation semble bloquée. Des adjoints du cardinal Béat, Mgr Wilbrandts et le père Mgr Dupré, vont au Moyen-Orient et ils vont trouver les patriarches catholiques orientaux. Maximus IV menace de ne pas revenir. Willy Brandt se montre très pessimiste et envisage carrément le retrait du texte. Une certaine détente après deux amendements proposés. Proposé par le pape, on supprimera l'idée de... On ne parlera pas de déicide, et on supprimera le mot condamne. C'est-à-dire, il y avait dans le texte, le concile condamne les actes antisémites, condamne fermement les actes antisémites, etc. Alors, on va mettre à la place déplore. Hein, un peu moins. Bon. Et voilà. Et ça va rester, hein, déplore. Voilà. En juillet 65, Wilbrandts et Dupré repartent au Moyen-Orient avec le promoteur de maître du texte sur la liberté religieuse. Ils rencontrent Maximus IV qui propose des amendements. Donc, cette fois, il ne dit pas qu'il ne reviendra pas, mais encore, on pourrait faire des amendements. Bien. Et il y a eu aussi le voyage à cette époque de Paul VI à l'ONU. Pour la première fois, le pape intervient sur la scène internationale. Donc l'Église va prendre une certaine position, non pas au plan politique directement, mais enfin dans le monde qui est travaillé par des tendances, des réalités politiques. Son intervention est bien reçue. Donc tout cela peut amener une certaine détente. Le texte est distribué. Voilà, toujours des oppositions. Pour certains évêques, il y a trop de concessions. Et même un théologien qui était présent, René Laurentin, que peut-être certains ont entendu parler, hein, écrit dans le Figaro et invite carrément à un vote négatif contre ce texte trop faible. Plus tard, il fera amende honorable. Il dit « j'ai eu tort de dire ça, après tout, il fallait le faire passer ». Alors, on arrive à une dernière version... le 28 octobre 1965, qui va être présenté le 28 octobre 1965 et voté. Le choix est difficile par ceux qui font le texte. Ils le font un petit peu tiraillé, hein, peut-être pas la mort dans l'âme, mais quand même, hein, ce n'est pas le texte qu'ils voulaient, ceux qui étaient pour. Hein. Revenir aux formulations antérieures plus fortes risquait de durcir les oppositions. Alors le cardinal Béat plaide pour ce nouveau texte, aussi insatisfaisant qu'il soit. Il vaut mieux le prendre plutôt que de risquer un échec pur et simple. Donc, en définitive, le vote solennel final, on a 88 non placet, c'est-à-dire pas d'accord. Hein. C'est tout. Hein. C'est un des textes qui a eu la plus forte opposition. Parmi eux aussi, ceux qui ont fait difficulté, Gaudium et Spes, c'est-à-dire l'Église dans le monde de ce temps, donc la question d'ouverture, et puis la liberté religieuse. Il faut savoir que pour les intégristes, hein, la liberté religieuse, c'est des choses qu'actuellement aussi, les intégristes dans le monde catholique, quand ils n'acceptent pas la liberté religieuse. Ils refusent l'écuménisme, tous ces textes. Alors évidemment, avec les juifs, bon, c'est guère mieux. Hein. Alors, maintenant, bon, il me reste un quart d'heure quand même, non ? Hein ? Ouais. Portée du texte. Petite réflexion sur la portée du texte. On voit que on n'a pas trop su où le mettre finalement, mais tous ces lieux où on a essayé de le mettre sont significatifs. Hein. L'écuménisme, mais bien sûr, quand les églises chrétiennes se rassemblent, si elles veulent faire leur unité, mais alors il faut voir la source commune. Et on va la trouver où, la source commune ? On va la trouver chez nos frères juifs. C'est eux qui la portent. C'est eux qui l'apportent. Alors on pourra se corriger les uns les autres, non pas en disant « Toi, les protestants, vous êtes toujours le Bible, pas de tradition. Vous, les catholiques, vous avez une hiérarchie épouvantable, etc. » Non, on va regarder ce qui se passe dans des sources. Et là, ça permettra de faire de l'écuménisme, vraiment. Parce que chacun pourra se juger à l'aune de cette tradition et voir ce qu'il a chez lui à transformer. Hein. Ben ouais. Bon, l'écuménisme, le de ecclesia, mais bien sûr. Mais bien sûr, la première phrase sur l'Église, hein, la première phrase de Nostra Aetate, hein, dit hein, l'Église, hein, Mysterium Ecclesiae Perscrutans, scrutant le mystère de l'Église, le Concile reconnaît le lien spirituel qui le relie à la lignée d'Abraham. Les autres religions, bien sûr, sauf que c'est vrai que ça conduit aux autres religions, mais c'est pas de la même manière, si vous voulez. Je le verrai après, hein, mais si on s'interroge sur nos propres sources juives, ça va nous remettre en question. On va s'interroger sur notre propre identité, sur ce que nous sommes, nous, comme chrétiens, profondément, dans notre axe. Si vraiment on est croyant, si vraiment on vit sa foi profondément, ça nous touche à l'intérieur, et ça va nous faire bouger de l'intérieur, sur notre identité profonde. Alors si on est capable de faire ce changement en nous, de bouger à ce niveau-là intérieur, on sera évidemment capable de s'ouvrir à l'extérieur aux autres, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. La première phrase que j'ai dite, que je redis maintenant, scrutant le mystère de l'Église, je reviens à l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Alors c'est Michel Romeau qui a fait cette remarque, et je trouve bien, si on avait eu un texte simplement à part, une déclaration, mais uniquement au sujet des Juifs, elle aurait commencé par « Mysterium Ecclesiae », scrutant le mystère de l'Église. Elle aurait eu ce titre-là. Le schéma sur les Juifs se serait appelé « Mystère de l'Église ». Hein, c'est pas rien. Hein. L'Église se souvient, elle fait mémoire. Ah, on avait perdu. On refait mémoire d'où nous venons, comme si on l'avait un peu perdu. Hein, on pensait à Jésus, d'accord, et puis le Nouveau Testament, et puis tout ça. Hein. Mémoire actualisée, d'ailleurs, à chaque eucharistie, quand on fait mémoire à la Pâque, hein, on fait mémoire du passé, actualisé, et puis ça vous propulse à l'avenir. Quand on fait mémoire de la tradition, ça propulse. Eh bien, faire mémoire d'où nous venons d'un peuple juif, ça peut aussi nous propulser à l'avenir. Hein. Comme le disait un protestant, Fadielowski, hein, la persistance d'Israël n'est pas un problème relevant des relations extérieures à l'Église, à modifier, à définir, à examiner comme tel, mais une question intérieure qui appartient à son être proche. Nos deux communautés, il dira plus loin, sont reliées au niveau même de leur identité religieuse. Ça nous touche en profondeur, ça. Voilà. C'est un lien spirituel. Un lien spirituel. Alors, on peut dire le lien spirituel, bon, c'est spirituel, c'est un peu vaporeux, mais non. Hein. Le spirituel a une densité d'être plus fort que le simplement matériel. Hein. Les choses se décident d'abord au niveau spirituel. Le matériel va l'exprimer après d'une manière ou d'une autre, mais c'est bien l'intériorité. C'est bien, hein. Donc, un lien spirituel, c'est pas rien. Hein. Un lien. Hein. Et puis, un lien qui demeure. Il se souvient de la lignée d'Abraham. C'est-à-dire, la lignée, c'est pas... un peuple qui a vécu, Abraham, là, puis dont on ne parle plus, bon, ils ont existé, ils ont raconté. Non, c'est une lignée qui continue, ils sont là, d'ailleurs. Nous sommes heureux de les avoir ici. Hein. Mais bon, c'est sûr, les lignées, elles sont présentes. Hein. Voilà. Donc, l'Église ne peut oublier qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc, hein, ce qu'on redit toujours. Hein. Voilà. Et puis, les prérogatives d'Israël, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, le culte, les promesses, les patriarches. Hein, c'est le début de Romains chapitre 9. Voilà. Et puis enfin, Paul aussi, dans Romains, va dire hein, « Les Juifs restent encore, à cause de leur père, très chers à Dieu. » Tout ça est représenté. Alors je redis hein, les normes aggiornamento que reconnaissent d'ailleurs les auteurs de ce texte déclaration pour le jubilé. Hein, ils le reconnaissent. Hein. C'est vrai qu'on a fait quelque chose de fort, hein, puisqu'on n'avait rien dans la tradition à part le début. À part, quand on se revient à la naissance de l'Église, on voit d'où elle vient. Ouais. On avait tellement un tel poids de côté négatif, je ne vais pas le redonner maintenant, on en aurait pour jusqu'à minuit, hein, mais c'est énorme. Hein, il suffit de lire un certain nombre d'ouvrages sur l'antisémitisme, on n'en sort pas indemne. Hein. Et puis, bon, il y a eu la Shoah, hein, peu de temps avant. Hein, donc, rejet de la théorie de substitution, hein, sur la base d'un si grand patrimoine, le Concile encourage le développement de la connaissance de l'estime mutuelle, on recadre les responsabilités de la mort du Christ. Pratiquement, les théories du rejet, le peuple juif est rejeté et nous avons sa place, c'est fini. Enfin, pas tout à fait chez tous, mais c'est fini. Avec le Concile, il n'y en a plus, hein, c'est rejeté. Alors, quelques manques, mais on pourra les corriger par la suite. Donc, on ne parle pas de déicide, alors que c'était quand même dans le passé, ça a été énorme comme cause des souffrances imposées aux Juifs. Puis, c'est aussi en même temps une aberration qu'on ne comprend pas bien. C'est de ce point de vue-là, les Juifs nous obligent à nous repenser ce qu'est le Christ. La mort du Christ, c'est pas un déicide. Enfin, c'est pas possible autrement. Mais on a tellement on fait une telle mise en valeur du Christ, une telle inflation, comme dit un théologien christologique, qu'on a finalement une sorte d'entité divine qu'on risque d'adorer comme une idole. Enfin, non, c'est pas ça. Ça ne enlève rien au Christ que de le voir comme un membre d'Israël, le Messie d'Israël, un homme, etc., mais qui nous transmet aussi, bien sûr, qui a vécu en plénitude, pour nous chrétiens, en plénitude, cette vocation d'Israël. C'est pour ça qu'il peut nous la transmettre. Hein. Parce qu'il a vécu en plénitude, lui, pas nous. Nous, on essaye, on marche, avance, on marche autant que possible avec nos amis juifs. Voilà. Alors, tout n'est pas dit, mais la voie est ouverte pour aller plus loin. Pour aller plus loin, et de fait, je pense qu'on est allé plus loin. Je nomme simplement quelques textes qui ont à la suite du Concile. Un premier, je pense que là, celui-là, il faut quand même le dire, c'est le comité épiscopal français de 1973. Là, ils ont fait, il y avait le père Dupuis, puis d'autres aussi, c'est déjà un peu loin maintenant, mais il y en a peut-être qui sont encore en vie maintenant, je ne sais pas. Le père Dupuis est mort il n'y a pas longtemps. Hein, il n'y a pas longtemps, oui. Colette Kessler écrit en 2004... C'est dans la déclaration de 1973 qu'on s'accorde à voir l'expression la plus parfaite et la plus complète de la conversion chrétienne vis-à-vis des Juifs. Mais je pense que ce texte est toujours actuel. Alors, quelques phrases simplement. L'Église qui se réclame du nom de Jésus-Christ et qui, par lui, se trouve liée depuis son origine et pour toujours au peuple juif, reçoit dans l'existence séculaire et ininterrompue de ce peuple un signe qu'elle voudrait comprendre en toute vérité. Le peuple existe toujours. Alors, hein, regardons un peu. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Autre phrase, Israël et l'Église ne sont pas des institutions complémentaires. La permanence commun vis-à-vis d'Israël et de l'Église est le signe de l'inachèvement du dessein de Dieu. Très important ça. Inachèvement du dessein de Dieu. Donc nous ne sommes pas chrétiens le royaume sur la terre. Nous sommes nous aussi en demande d'un accomplissement de plus. C'est pas le Christ, pour le Christ tout est parfait, c'est parfait. Mais bon, et nous alors? Hein, eh bien, nous, il nous ouvre, on reçoit, si vous voulez, de la Torah tout ce que les non-juifs peuvent en recevoir. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Hein. Autre phrase. Alors, voyons, il y a quelque chose sur la Nouvelle Alliance. Parler de Nouvelle Alliance, eh bien, ça ne veut pas dire que l'ancienne est dépassée. Mais il y a eu des réactions. Ce document n'a pas été accepté comme ça. Hein. Et pourtant, ce n'est pas très vieux. Hein. Alors, première réaction, c'est que le texte parle, alors pour la première fois, cette fois on aborde quelque chose qui n'a pas été abordé au Concile, c'est le problème de la terre d'Israël. Hein. Alors, le texte affirme, se prononce sur le mouvement du retour du peuple juif à sa terre, hein. En face de celui-ci, nous ne pouvons tout d'abord oublier, en tant que chrétiens, le don fait jadis par Dieu au peuple d'Israël d'une terre sur laquelle il a été appelé à se réunir. Alors, on reconnaît quand même, par ce retour et ses répercussions, la justice est mise à l'épreuve. Donc, bon, il est prudent, il dit aussi bon, tout ce que ça propose, mais on en parle. Et évidemment, il y aura des réactions. Et peut-être la réaction la plus forte, c'est l'affirmation de cette alliance du Sinaï qui demeure, qui n'est pas supprimée. Et là, il y a des réactions. Le cardinal Danielou, bien connu, hein, va dire « Parler de la nouvelle alliance, c'est dire que l'ancienne est dépassée. » Et pour un grand exégète qu'on a bien connu, enfin moi, nous, on était jeunes à cette époque, hein, on le disait, pour quiconque a rencontré le Christ, l'ancienne alliance est désormais périmée. Elle a été remplacée aux yeux des chrétiens par la nouvelle alliance. C'est reposant. C'est plus facile hein, de dire l'ancienne alliance terminée, et maintenant c'est la nouvelle. Bon, on est bien. C'est pas si simple. Voilà, hein, c'est pas si simple. Notre relation aux sources juives nous oblige à réfléchir, à nous situer autrement, à ne pas être satisfait de nous-mêmes. Deux autres textes bon, que je note simplement, hein, venus de Rome, alors les orientations de 1974, orientations et suggestions pour l'application de la déclaration conciliaire. Bon, des ans après, on va dire encore comment faire pour mettre en pratique dans l'enseignement, dans la catéchèse, dans l'église, dans la prédication, etc. Il y a des choses à dire. Et puis, on reprend ça cinq ans après dans les notes. Hein, note pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et dans la catéchèse. Voilà. Nous sommes liés au niveau même de notre identité, le peuple du Dieu de l'ancienne alliance qui n'a jamais été révoqué, on reprend ça. Alors, une question qui se pose ici, je la redis parce qu'elle a encore été débattue récemment, moi j'en ai entendu parler récemment, l'Église et le judaïsme ne peuvent pas être présentés comme deux voies parallèles de salut. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule voie de salut, le Christ. Alors s'il n'y a qu'une seule voie de salut, alors bon, ben, faut que les Juifs reconnaissent le Christ, quoi. Et là, Colette Kessler, toujours dans le livre de 2004, mentionne ça et dit que là, il y a quelque chose à revoir. Et à revoir. Dans la déclaration pour le jubilé, là, les cinq signataires vont dire nos voix, bien qu'irréductiblement singulières, sont complémentaires et convergentes. Alors là, on peut s'entendre. Hein, complémentaires et convergentes. Alors, il faut voir de quelle manière elles sont complémentaires. C'est pas dit, mais enfin, ils peuvent pas tout dire, là, non plus. Hein. Donc, quelques mots, maintenant, mais simplement pour évoquer. Hein. Le pontificat de Jean-Paul II. Alors là, il faut reconnaître que ce pape Jean-Paul II, dans ce qui concerne la relation avec les Juifs, a été extrêmement positif et, à mon avis, il a fait avancer la réflexion. Il n'a pas tout dit lui-même, mais le 12 mars 1979, le Concile signifiait que nos deux communautés religieuses sont étroitement liées au niveau même de leur identité respective. Au niveau de leur identité, ça avait été déjà dit avant. Hein. À Mayence, le 17 novembre, l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée par Dieu. Et peu de temps après, le père Vanois, qui a été un grand spécialiste de l'épître aux Hébreux, influencé par cette épître aux Hébreux, va essayer d'expliquer comment il faut comprendre le pape. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que cette alliance du Sinaï, c'est fini. Bon, on a réagi. Voilà. Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. C'est encore des paroles de de Jean-Paul II. Le 22 mars 1984, aux dirigeants du Neubrit, les liens entre l'Église et le peuple juif sont fondés sur le dessein du Dieu de l'Alliance. Lorsqu'il visite la synagogue en avril 1986, la religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais en un certain sens, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc à son égard des rapports que nous n'avons en aucune religion. Donc voilà déjà des pensées qui vont vraiment, qui sont dans la suite de Vatican II, hein, de Nostra Aetate. Quelques événements qui ont eu lieu, je les mentionne parce qu'il va falloir arrêter. La déclaration de repentance. La déclaration des évêques d'Allemagne en janvier 1995, très bonne. Celle de Drancy, le 30 septembre 1997. Alors là, ce qu'on peut dire, on peut mettre 20 sur 20. Hein. Vraiment. Et bon, il y a Jean Dujardin, il est coupable de beaucoup de grande partie de cette déclaration, en sens son style presque. Voilà. Alors là, vraiment, on se remet en cause, quoi. Hein. On va pas dire tout ce que les évêques ont fait de bien pour, au contraire. Hein. C'est vraiment, on met en cause aussi la hiérarchie dans ses chefs. Ce que ne pourra pas bien faire la déclaration suivante, qui vient alors pour l'Église universelle, qui vient de Rome, l'Église catholique. Hein. Nous nous souvenons du 16 mars 1998. Alors celle-là, hein, Jean Dujardin m'a dit, on leur a donné un pur sang avec cette déclaration de 97, hein, de Drancy, et nous ont rendu un chameau. Mais je crois que c'est vrai, elle est pas très bonne. Hein. Autre chose. Le jubilé de l'an 2000. Alors là, une prière pour les Juifs, une demande de pardon, je crois que c'était pas si mal. Et surtout, le voyage du pape en Israël. Alors là, quand il va, en boitant un peu, quand il va au mur et mettre la prière de repentance du jubilé de l'an 2000 dans le mur, là, c'était un sommet, là. Ça a été un sommet, là. Moi, j'étais à ce moment-là à Jérusalem, j'étais à Ratisbonne, je travaillais dans la bibliothèque. J'aurais aimé qu'ils viennent dans cette bibliothèque de Ratisbonne, où c'était le seul institut vraiment du Vatican à cette époque qui travaillait justement pour, dans lequel est dans ce sens. Voilà. Il y a eu des obstacles, hein, des problèmes. Le problème de Pie XII avec les Juifs. Hein, et c'était pendant le Concile d'ailleurs qu'il y a eu, je ne l'ai pas noté ça, mais pendant le Concile, il y a eu la fameuse pièce de Orhout, je crois, hein, sur le vicaire. Hein, le vicaire. Alors, bon, tout ça. Hein, et Dieu sait si ça nous a perturbé tous ces temps. Là. Maintenant, j'espère que c'est carrément enterré. Hein. Quand même, le silence officiel de Pie XII, hein, je crois qu'il est incontestable. Bon. Il y a eu, parmi les obstacles, des béatifications, ou des projets de béatification. Hein. Alors celui de Pie XII, évidemment. Hein. Ça vient toujours du côté intégriste, hein, traditionnaliste. La béatification d'Edith Stein, alors bon, quand même, Jean-Paul II a bien dit qu'elle était en tant que juive aussi, mais bon, il faut des juifs quand même, vous l'apprenez, mais si elle a été à Auschwitz, je pense que c'était Auschwitz, c'est pas en tant que catholique, hein, c'est en tant que juive. La béatification proposée d'Isabelle la catholique, dans 92, hein. Là aussi, on est passé à côté, on a pu l'empêcher. Hein. Ben, c'est une bonne chrétienne. Bon, d'accord. Béatification de Pie IX, celui-là, il y a eu. Béatification de Pie IX. Hein, il a quand même refait le ghetto, Il y a eu l'affaire Mortara, cet enfant juif baptisé et qu'on a enlevé à ses parents. Alors on a fait la béatification en même temps que Jean 23. Comme ça, ça faisait taire les opposants, on mettait les deux ensemble. Ouais, en donnant à tous. Hein. La Bible des communautés chrétiennes, une édition de la Bible qui était tout à fait anti-judaïque, très forte. Alors là, l'amitié judéo-chrétienne a réagi, on a vraiment réagi pour corriger tout ça. Hein. L'affaire du Carmel d'Auschwitz, là aussi, hein. Oui, ça n'a pas manqué. Hein. Et un des derniers cas, la levée d'excommunication de Williamson, les évêques intégristes, hein. Négationnistes, qui va dans le sens, qui va exactement dans le sens des nazismes pour dire non seulement que ce crime n'est pas un crime, mais qu'il n'a pas existé. Hein, afin qu'on puisse même dire que le crime n'a pas existé, les juifs n'ont jamais existé. Donc, ça y est, la voie, la transcendance, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça va jusque-là. Bon, bien. Bon, alors, aujourd'hui, que dire ? Beaucoup de choses. Je pense qu'on a ce texte-là, hein, est une. Bon, oui, c'est ça, on va le lire. Puis terminer par là, parce que je veux pas. Ça sera assez long.
Je pense peut-être qu'ensemble, nous avions convenu qu'effectivement, cette lecture pouvait se faire. C'est pour ça que vous l'avez devant les yeux. C'est quelque chose de très récent, puisque ça a été donné aux Bernardins le 23 novembre, devant une grande assemblée. Et c'est vraiment une déclaration pour le jubilé de fraternité à venir, qui a été faite, donc signée par diverses personnalités du monde juif français. Donc, comme Jean-François Ben Sahel, le rabbin Philippe Haddad, le rabbin Rivon Krichier, Rafi Marciano, Franklin Roski, etc., sont des personnalités connues dans le monde juif et qui a été remise par le grand rabbin de France, Chaim Korsia, à son éminence, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et à monsieur le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Alors, malgré tout, j'ai trouvé important, même si ça prenait un petit peu du temps, mais ça peut être une conclusion assez réjouissante de tout ce qui a pu se passer, et de le lire un peu pour conclure. Si on ne peut pas conclure, il y aurait tant de choses à se dire sur Nostra Aetate, mais je pense que le Père Jean nous a dit beaucoup de traits, comment dirais-je, historique et en même temps ce que cela pouvait représenter. Alors cette déclaration pour le jubilé de fraternité à venir, c'est une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes. Alors c'est important de le dire, puisque là nous sommes dans l'amitié judéo-chrétienne et que c'est un petit peu, vous allez écouter, ce sont des juifs qui ont écrit cela. Alors, je transformerai la langue des peuples en une langue pure pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et le servent d'un seul cœur. C'est dans Sophonie 3, 9. Nous, Juifs de France, signataires de cette déclaration, exprimons la joie de célébrer le cinquantenaire, de la déclaration Nostra Aetate, établi lors du Concile Vatican II et qui a ouvert une ère de réconciliation entre juifs et chrétiens. Pour nous, cet anniversaire ne marque pas seulement l'aboutissement d'un jubilé de rapprochement. Il doit aussi marquer le début d'un autre. Nous comprenons cet événement comme une convocation sacrée, tant charnière de bilan, de défi, et d'engagement. Qu'avons-nous, juifs, appris de vous, chrétiens, durant ces dernières 50 années ? Que l'Église catholique, mais aussi les églises protestantes, des membres éminents de l'Église orthodoxe et anglicane, ont décidé de renouer avec les sources et valeurs juives inscrites au cœur de l'identité de Jésus et des apôtres, dans une démarche dont la sincérité a été éprouvée. L'Église a accompli un tournant décisif à portée théologique. Désormais, pour elle, le peuple juif n'est plus tenu pour le responsable de la mort de Jésus. La foi chrétienne n'annule ni ne remplace l'alliance contractée entre Dieu et le peuple d'Israël. L'antijudaïsme, qui a souvent fait le lit de l'antisémitisme et qui a jadis pu nourrir l'enseignement doctrinal, est un péché. Le peuple juif n'est pas considéré comme un peuple banni et l'État d'Israël est désormais reconnu par le Vatican. Ce retournement n'est pas seulement pour nous juifs une heureuse prise de conscience, il témoigne aussi d'une capacité inaccoutumée de se remettre en cause au nom des valeurs religieuses et éthiques les plus fondamentales. En cela, il sanctifie le nom de Dieu, force à jamais le respect et constitue un précédent de caractère exemplaire pour toutes les religions et convictions spirituelles de la planète. Que pouvons-nous, juifs, espérer construire avec vous, chrétiens, dans les 50 prochaines années? Quel est notre devoir, maintenant que les représentants des plus hautes institutions chrétiennes ont exprimé le vœu de se réimplanter, de se regreffer sur le tronc d'Israël? Accueillir, en synergie avec le judaïsme, le christianisme, comme la religion de nos frères et sœurs. Nous, signataires, reconnaissons à l'appui de la recherche historique que le judaïsme rabbinique et le christianisme des conciles se sont construits dans le passé en s'opposant, dans le mépris et la haine. Les Juifs en ont souvent payé le prix fort par les persécutions. Ces 20 siècles de négation ont fait oublier l'essentiel. Nos voix, bien qu'irréductiblement singulières, sont complémentaires et convergentes. N'avons-nous pas en effet pour espérance suprême que l'histoire des hommes ait un même horizon, celui de la fraternité universelle, d'une humanité rassemblée autour de Dieu un et unique? Nous devons y œuvrer ensemble, plus que jamais, main dans la main. Nous, juifs, y travaillons par l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est-à-dire des commandements divins, par l'étude de sagesse, par l'enseignement de sagesse qui en découle et qui vise la transformation des cœurs et des esprits. Vous, chrétiens, y travaillez par l'accueil du Verbe qui vous donne ce supplément d'être, d'élévation du cœur et de l'esprit. Les divergences théologiques ne doivent pas nous faire oublier que bien des enseignements rabbiniques... Non, pardon.
Chrétiens.
voilà, mon lapsus, je le trouve incroyable. Sont en parfaite concordance avec ceux de la tradition rabbinique.
Encore un tout petit peu.
Le jubilé qui s'ouvre nous enjoint d'œuvrer ensemble à la construction de cette fraternité universelle et à l'actualisation d'une éthique commune, valable pour le monde entier. Nous devons apprendre à nous défaire des préjugés qui se sont creusés au fil des temps dans nos consciences respectives sur ce que croit, pense et fait l'autre, pour mieux écouter ce que chacune des religions dit d'elle-même et de son projet pour le respect et la prospérité de toute l'humanité. Il nous faut nous attacher désormais à mieux comprendre l'autre, l'apprécier, l'estimer, l'aimer pour ce qu'il est et accomplit en propre. La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité réconciliée et pacifiée. Puisse-t-elle habiter le cœur de nos prières. Texte donc, vous l'avez rédigé par, je vous ai dit les noms. Moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance... Bon, j'étais invitée officiellement, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai regardé, vous pouvez regarder sur Internet, grâce à Solange, qui m'avait passé le lien, et puis je l'avais trouvé aussi. Mais moi, quand j'ai écouté ce texte lu, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, de joie, d'émotion, parce que ce qui est dit là, c'est tellement ce que nous souhaitons, tous ici en tout cas, à l'amitié judéo-chrétienne. Je regrette qu'on ne soit même pas plus nombreux ce soir pour voir cela. Il a été mis, j'ai tout de suite dit à Norbert, mets-le sur le site. C'est tellement important. Et vous savez ce qui est fort pour le monde juif, c'est cette reconnaissance de Nostra Aetate. Parce que quelque part, le fait de reconnaître l'effort qui a été fait, même si c'était compliqué, hein, et que ça l'est encore, que rien n'est simple et que rien n'est fini, loin de là, et qu'on doit continuer à œuvrer, ça, de la part du monde juif, j'ai trouvé que c'était une ouverture fantastique, parce que je ne vous dis pas encore le nombre de communautés juives, et il y en a une à Annecy, de la peur qu'ils ont des autres, et du coup ils n'osent pas, alors que si ceci était donné vraiment à tous pour le monde juif, il y aurait encore plus d'ouverture et de capacité d'œuvrer ensemble. Donc que Dieu nous entende pour cela, aussi bien vous Père qui travaillez là-dedans et nous tous ici, je rends grâce à cela, de cela vraiment, vraiment. Voilà. Peut-être avez-vous encore à nous dire ou pensez-vous que nous passions aux questions?
On va pouvoir passer aux questions. Peut-être simplement un détail, enfin pas un détail, un aspect de ce texte-là. Il est dit, c'est un peu à la fin, hein, le paragraphe qui commence par « Nous, juifs, y travaillons ». Par l'étude de la pratique de la Torah, des mitzvot, c'est-à-dire des commandements. Vous, chrétiens, vous y travaillez par l'accueil du Verbe.
Oui, alors, avec un grand V, hein.
Ah oui, bien sûr. Oui, mais alors,
c'est Jean.
Oui, mais il paraît que le texte, au départ, c'était par l'accueil de Jésus ou du Christ. Je ne sais plus ce que c'était. Et c'est Corsia qui a demandé qu'on change ce mot par Verbe. Ouais. Et moi, on en a discuté à Lyon avec des groupes, deux, trois groupes de chrétiens, on discutait, on trouvait ça très bien. Parce que, qu'est-ce qu'on accueille? C'est le Verbe devenu chair, donc la parole de Dieu qui devient chair, qui devient en nous. C'est ça, au lieu de... Si on se focalise sur le Christ, on va l'admirer, on va l'adorer, et puis on reste dans nos ornières. Hein. Il faut accueillir, et ça correspond du côté juif... d'accueil de la Torah, enfin, c'est la même réalité. Ça. Devenir Torah, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, devenir Verbe de Dieu, parole de Dieu, nuance chrétienne, c'est la même chose. Enfin, c'est au fond du fond. C'est, hein, les pratiques ne sont pas les mêmes, les vocations ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr, mais l'accueil fondamental, c'est bien sûr. Voilà, que je voulais rajouter.
Merci beaucoup. À vous. Alors je pense qu'il y a des questions, parce qu'il est sûr que tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est dit pendant 5 ans, où il a fallu avec des hauts, des bas et beaucoup de bas, mais malgré tout aussi des belles choses qui se sont finalement décidées, et des textes favorables. Enfin, on sent que c'est encore très limite, n'est-ce pas? Mais de ce que vous dites, je suis même... surprise, je voyais ça beaucoup plus riche et joyeux.
Irénique.
Oui. Mais c'est là, et je disais, nous en parlions, moi je pensais, pourvu que cela dure, pourvu qu'un jour ça ne se retransforme pas en l'inverse, puisque le long des siècles on a vu ça, il y a eu des moments très forts qui étaient entre juifs et chrétiens, et puis tout à coup tout retombait. Pendant des siècles, il n'y avait plus rien, il y avait même de la haine.
Oui. Bien sûr.
Parlons des années, d'Isabelle la très catholique, où il y avait eu avant elle 400 ans de merveilles en Espagne. Bien, Alors souhaitons et travaillons dans ce sens, puis on est quand même au 21e siècle. Question ou peut-être réflexion.
Moi, je répondrai à ce que vous dites. Je répondrai déjà que ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on sait... Maintenant, c'est un texte conciliaire qui oblige, tandis qu'avant, il n'y avait rien eu dans ce sens-là. Il n'y a rien eu. Il y a eu des déclarations des pères, il y a eu l'obligation aux juifs de porter un signe spécial, le ghetto, etc. Mais rien de qui oblige. Tandis que cette fois, on l'a.
C'est un sentiment.
On ne peut pas revenir dessus.
De liberté. C'est le mot qui me vient, en tout cas.
Merci. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous remercier très sincèrement parce que je crois que c'est une chance inestimable de vous avoir comme président du groupe de Lyon parce que vous avez un courage, père catholique, vous avez dit des choses, je vais les énoncer rapidement, des choses qui ne sont pas évidentes à dire pour un prêtre catholique. Ensuite, je dirais qu'il y a dans ce fameux texte de Nostra Aetate, il y a quand même une chose qui me gêne beaucoup, qui me gênerait, je suis protestant, qui me gênerait encore plus si j'étais juif, dire quelque chose au sujet de l'ami, entre guillemets, l'ami Pie IX, rappeler qui était Pie IX, c'était pas n'importe qui Pie IX, et puis dire aussi quelque chose que je trouve tout à fait remarquable. Nostra Aetate, en fait, ça veut dire... Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, Nostra Aetate.
Nouvelle.
À notre époque.
À notre époque.
Eh bien, il y a quelque chose qui est tout à fait à notre époque par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre. Vous allez voir, ça, ça a été rappelé dans le journal La Croix le 24 octobre, je crois, et c'est tout à fait remarquable. Donc, ce que j'ai particulièrement aimé chez vous, je trouve très courageux de votre part... Rappeler Benoît XVI et les intégristes, la problématique des pères de l'Église. Et on a eu une conférence il n'y a pas longtemps où les pères de l'Église avaient une conférence extrêmement intéressante, mais où les pères de l'Église étaient encensés. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc merci de l'avoir dit. D'avoir dit aussi qu'on aurait pu faire plus. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il y a quand même un truc qui me reste en travers de la gorge. La mise en garde contre une christologie idolatrique qui est très présente, pas seulement chez certains catholiques, mais chez nous, alors pas chez nous protestants réformés, mais chez les protestants chez certains églises protestantes évangéliques. Il faut voir ce qui a été dit aussi. Alors, il y a eu, le recteur de Fourvière, mais il y a eu aussi un responsable d'une église évangélique d'Annecy qui a dit des horreurs. La même chose, en fait, que ce que le recteur de Fourvière a dit, l'ancien recteur. Voilà, Chaplin.
Chaplin, récemment.
Voilà. Il y a un responsable d'une église évangélique, responsable autoproclamé, d'ailleurs, qui a dit la même chose, en fait.
À propos de
ce qui s'est passé au Bataclan, voilà.
Ah oui.
Oui.
Là, il a dit la même chose. Alors, Pie XII aussi, qu'un prêtre catholique évoque, je trouve très bien. Et puis, l'ami Pie IX. Alors... L'ami Pie IX. Alors, qui c'était l'ami Pie IX ? L'ami Pie IX, en fait, c'est lui qui a convoqué le premier concile œcuménique du Vatican, et ce premier concile, c'est ce concile qui a défini l'infaillibilité papale. Ça, c'est très intéressant quand on sait ce qu'il a dit à propos des juifs. Alors, l'infaillibilité papale qui conduit à dire ça, il a dit en fait que les juifs représentés aujourd'hui, donc ça c'était dans la deuxième partie du je crois qu'il est mort en 1885, je suis
dans
pas très sûr.
Mais
lui, il est mort en 1885, je crois. Et en fait, ça a dû être prononcé dans la deuxième partie du 19e siècle, donc dans les années 1850. Il a dit que les Juifs représentaient aujourd'hui, donc aujourd'hui, à cette époque-là, représentaient la synagogue de Satan. Infaillibilité papale.
Voilà. S'il est infaillible, c'est que c'est vrai.
Oui, ben voilà. Et puis, alors, le point qui me gêne beaucoup quand je lis le texte, même si je... Alors, ce que j'ai trouvé admirable dans votre manière de présenter, justement, vous n'avez pas dit seulement ce qu'il y avait, mais la manière, tout ce qui... le cheminement pour arriver là où on est arrivé. Et ça, je trouve remarquable le travail que vous avez fait. Mais il y a quand même quelque chose qui me reste en travers de la gorge, parce qu'à un moment, on parle de... du nouveau peuple de Dieu. Du nouveau peuple de Dieu.
Très bien.
Voilà, et ça... Voilà, alors, je ne suis pas juif, même si je me sens extrêmement juif, à certains moments, mais ça, ça me reste en travers de la gorge. Et puis, dernière chose, alors que je trouve tout à fait nostra aetate, à notre époque, là.
Et... Je vais y arriver, là.
La... Alors, écoutez, la résonance que ça a, la résonance actuelle, là, la déclaration se conclut par l'affirmation d'une fraternité universelle, excluant toute discrimination liée à la race, la couleur, la condition ou la religion. Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'était rappelé par La Croix, le journal La Croix, du 24 octobre. Mais quelle résonance avec ce qui s'est passé le 13 novembre et toutes les horreurs qu'on a pu entendre. Voilà, je vous remercie.
Voilà, bon, je ne vais pas répondre à tout, hein, parce qu'il y en a trop. Mais, bon, la christologie, j'en ai parlé. Pie IX. C'est symptomatique. Pie IX perd les états. On perd les états de l'Église. Alors la gloire de l'Église, qu'est-ce que ça va devenir ? On va compenser par cette infaillibilité pontificale. Et le problème quand pour accueillir le judaïsme, il faut que l'Église renonce à sa volonté d'autoglorification. Ça se vérifie dans la fameuse déclaration de repentance. Nous nous souvenons. Hein, qui est le chameau par rapport au pur sang de celle de Drancy. Hein. Dans cette déclaration, le pluriel s'adresse à tous ceux qui ont fait du bien aux Juifs et les quelques exceptions à ceux qui ont fait du mal. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Hein. On critique, on déplore un peu certains fils de l'Église, mais on a l'impression que la hiérarchie n'a rien fait. Hein. Les difficultés qu'il y a eu à propos du Carmel d'Auschwitz, c'est un peu du même ordre. Jean-Paul II a mis longtemps à traîner, on se demandait ce qu'il voulait, parce que imposer quand même au cœur de cette Shoah, la croix du Christ, prier, eh ben non. Hein. De même, voilà, la volonté de l'Église, évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, eh ben, on va prendre les Juifs avec, c'est tout le monde. Eh ben non. Hein, non, il y a un manque, là, quelque chose, on ne le fait pas. Vous voyez, tout ce qui... Toutes les volontés d'autoglorification de l'Église, elles vont être contestées par... De même, par la relation à nos frères Juifs. Ça nous remet à notre place, et ça nous fait un bien infini. De même, ces béatifications de papes, pendant un millénaire, il n'y en a pas eu, et tout d'un coup, on canonise Pie X, on va essayer de canoniser Pie XII, on canonise Pie IX, tout ça. Mais il suffit d'être pape pour être canonisé, maintenant. Volonté, vous voyez, de sorte de glorifier. Alors, même si on soit un peu brique. Alors, ce qui bloque, c'est... oui, ce qu'il a fait avec les Juifs, tiens, on ne peut pas. Ça nous fait un grand bien, hein, voilà. Alors, l'histoire du nouveau peuple de Dieu, ben évidemment, vous avez parfaitement raison, hein, c'est d'accord. J'aurais pu en parler, d'ailleurs. Hein, mais il est question du nouveau peuple de Dieu, ben on le dit, on le note, et ben oui, ça, c'est pas très heureux. Voilà. C'est pas très heureux, mais cette déclaration, elle oriente vraiment fortement dans le bon sens, mais on voit comment elle s'est faite. Hein, on n'a pas pu faire exactement tout ce qu'on voulait. Bon. Autant avoir un texte de compromis qui passe que rien du tout. Voilà.
Bien. Oui, bon, je vais me représenter. Maintenant, je pense que... Oui, alors,
Je m'appelle Jean Albert et je représente aussi les communautés protestantes. Ça sera une question vers l'avenir, une question vers l'actualité. Mais dans cette question d'actualité, on peut à nouveau repréciser les choses. Je pense à l'Amérique latine et peut-être aussi un petit peu au Portugal où on a des communautés juives, je pense, qui sont assez importantes, et aussi au Brésil et en Amérique latine. Alors je voulais savoir, parce que évidemment les relations judéo-chrétiennes nécessitent la présence de communautés juives dans des pays chrétiens. S'il n'y a presque pas de juifs, il est difficile de mettre en place une dynamique judéo-chrétienne. Par contre, en Amérique latine, au Brésil, je pense, au Portugal, des communautés juives sont assez présentes. Alors, voilà ma question. Est-ce qu'on a aussi cette existence, cette vitalité, comme nous avons maintenant ici, plus ou moins pour l'Europe de l'Ouest, parce que je pense qu'il y a des rencontres judéo-chrétiennes en Angleterre, conséquentes, vous me direz. J'espère qu'il y en a. En Allemagne, c'est un peu difficile parce que la communauté juive allemande est toute petite, mais il doit y avoir quelques rencontres. Pour l'Amérique latine, des pays comme le Brésil, peut-être l'Argentine, le Chili, et est-ce qu'il y a aussi ces rencontres? Et même s'il n'y en a pas, est-ce que les communautés juives en Amérique latine sont en bonne relation avec le monde chrétien sud-américain?
Bon, là, je préfère pas répondre parce que je sais pas. Voilà, c'est tout simple. Non, c'est pas la peine.
Je peux dire peut-être un mot, mais pas plus. Il y a des relations, mais il faudrait voir avec l'ICCJ, c'est-à-dire l'amitié judéo-chrétienne internationale. Alors justement, je voulais vous montrer ce sens de Nostra Aetate qui date de septembre-octobre. Là, il est récent, pour ceux qui l'ont eu. Alors vous avez déjà le 50e anniversaire, vous avez le colloque de l'ICCJ qui s'est fait à Rome, où d'ailleurs les représentants ont été reçus par le pape. Il y a un très bel article de Liliane Apothécaire qui a été reçu par le pape, qui est une personne juive, et je pense que c'est eux qui pourraient dire et faire un petit bilan, mais ça m'intéresse, peut-être je vais en faire la demande, parce que même pour savoir pour nous tous, groupe ici en France, ou même en Europe, où sont effectivement les groupes amitié judéo-chrétienne. Il est sûr que s'il y a effectivement des communautés des deux côtés, il devrait y avoir quelque chose, puisqu'il y a un plan international qui existe là-dessus, sur les rencontres amitié. Donc, maintenant, ce que je vois, c'est que dans énormément de pays du monde aujourd'hui, il n'y a plus de juifs du tout. Il en reste un vieux monsieur. Il reste plus rien dans beaucoup de pays, notamment dans tous les pays du Moyen-Orient, dans tous les pays, enfin dans des pays à majorité musulmane. Alors bien sûr que le dialogue est encore autre. Il y a 12 millions de juifs dans le monde. Et quand on sait déjà qu'il y en a 5 millions à peu près aux États-Unis, qu'il y en a à peu près 3,5 millions en Israël, bah vous voyez ce qui reste dans le monde. C'est-à-dire très peu.
Et moi, enfin, je pourrais dire une chose quand même, c'est que pour des chrétiens, qu'il y ait des juifs ou pas, l'interrogation, la prise en compte de l'existence du peuple juif demeure. Hein. Et on le voit à propos de l'antisémitisme, par exemple, au plan négatif. En Angleterre, quand les juifs ont été expulsés, il y a toujours eu de l'antisémitisme après. Il y avait de l'antisémitisme en Russie alors que les juifs n'étaient pas encore mis les pieds. Donc c'est quelque chose qui nous interroge de toute façon. Alors autant l'aborder de façon positive. Mais ça fait partie de l'interrogation chrétienne, c'est obligé.
Ce que je trouve, c'est très beau ce que vous dites, et c'est très chaud au cœur, parce que ça veut dire que vous prenez vraiment en compte la personnalité de Jésus comme juif, avec effectivement tout ce chemin, et que ce chemin-là sans dire jamais de s'approprier l'identité de l'autre, surtout pas, mais d'en tirer effectivement ou d'en vivre quelque chose de beau pour un épanouissement. Mais voilà, ça c'est sûr que même si le... Mais ce qui est dit, ce petit peuple, dit-on, restera jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, nous ne serons plus là. On verra bien.
Ou faire avec.
D'autres réflexions, questions, peut-être.
Non, non, Marie-Laurent, on ne t'entend pas.
Non, mais...
C'est pas la
allez-y.
Fête,
ouais. Non,
mais...
Mais j'entends.
C'est pas la peine parce qu'on ne comprend pas la réponse si on n'entend pas la question.
Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que cette fameuse doctrine de l'infaillibilité du pape, elle peut être rayée des textes, ou est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ?
On la rayera pas, mais...
C'est pas possible ?
Le Concile Vatican II a mis le poids sur le peuple de Dieu. Hein. Ça commence par... le mystère de l'Église, hein, c'est-à-dire, dans le fond, on accueille cette intervention de Dieu par Jésus, et puis finalement, dans le peuple juif, fatalement. Et puis, ensuite, on parle du peuple de Dieu, et ensuite, on va parler de la hiérarchie. Voilà. Alors, je vais peut-être simplement... le concile amène des interprétations qui vont relativiser à sa place cette infaillibilité. Si vous voulez, je vais vous dire une fois, j'ai entendu le père Fellet, le monseigneur Fellet, intégriste, hein, responsable de la communauté Saint-Bédis, tout ça, hein, qui disait que l'Église, c'était pas une démocratie, tout ça, hein, qui donnait un exemple, un peu juif d'ailleurs, parce qu'il poursuit le problème jusqu'au bout. Il dit, mettons que dans les chrétiens d'Église, hein, tous se trompent. Hein, et puis, donc, en tout cas, ils sont tous en désaccord avec le pape. Hein, ils se trouvent en désaccord avec le pape. Eh bien, dans ces cas-là, vous voyez, il n'y a que le pape qui a raison et tous les autres ont à s'y plier. Eh bien, comme quoi l'Église n'est pas une démocratie. Eh bien, il faut prendre le raisonnement contraire. Si le pape est contre tous... Hein, c'est le pape seul contre tous, eh bien, faut le changer. Hein, parce que, ben oui, c'est la communauté comme telle, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Je dis peuple de Dieu, au moins des chrétiens, hein, pour ce qui est du christianisme, hein, des adeptes du Christ. C'est l'ensemble qui est porteur de vérité, porteur de révélation. Et ça, moi, je l'ai surtout appris de la tradition juive. Hein. Le peuple est porteur de révélation. Vous voyez. Donc, le pape, il peut rien dire qu'il soit... par exemple, on fête aujourd'hui l'Immaculée Conception. Hein, oui, c'est ça. Eh bien, le pape qui aimait promulguer des dogmes, mais il n'a pu le faire que parce qu'il y avait un accord très large, un consensus de l'Église. S'il n'y a pas ce consensus, il ne peut pas. Voilà. Donc... ça remet en place cette infaillibilité. Hein.
Et qui est-ce qui a proclamé ? C'est fini.
Comment ?
Qui a proclamé l'Immaculée Conception sur Corpus 9 ?
La micro, Norbert.
Je voulais vous dire aussi... voilà, c'est parti.
Je ne sais plus qui c'est qui disait, il n'y en a qu'un qui ne peut pas se tromper. Et encore, c'est lui qui le dit.
Si on achète Nostra Aetate pour lire le texte,
oui.
Est-ce que toutes ces remarques, oui, est-ce que ça sera mis en note ?
Ah non !
Non !
Non, là, vous avez le texte pur, le texte nu, avec les références bibliques en dessous, et c'est tout ce que vous avez. Hein.
Oui, bon, mais... ben, il vaut mieux vous avoir entendu.
Mais vous savez que dans cette histoire, ce que vous dites à propos du pape et d'autres personnes qui ont raison, il y a un midrash extraordinaire. Je regarde Gérard parce qu'il sait certainement de quoi je veux parler, mais en tout cas, l'histoire se... Pardon ?
Je ne peux pas en parler parce qu'on ne sera pas d'accord.
Ah bon, on ne sera pas d'accord.
Ah bon,
non, je ne sais pas.
On est entre juifs, alors là, c'est le thème.
Disons que les maîtres décidaient, avaient une décision à prendre, oui. Dieu écoutait, et puis ça ne marchait pas, et les maîtres disaient, mais on va demander à Dieu et de faire bouger, pour nous montrer qu'il écoute, et de faire bouger les murs de la maison d'études, et les murs de la maison d'études
bougèrent. Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui.
Vous connaissez,
oui, oui, je connais l'histoire.
Et finalement, c'était pas Dieu qui avait raison, alors que lui, à chaque fois, il prenait que c'était ainsi, et finalement, les autres disaient, mais non, c'est pas ainsi, et finalement, Dieu a lâché en disant, mais c'est mes enfants qui m'ont vaincu et qui m'ont fait rire aussi, d'ailleurs. Je
crois. Il avait souri, oui. Il avait souri.
Voilà, alors vous connaissiez aussi.
Oui, notre histoire aussi, c'est avec Rabbi Yohanan, qui discutait beaucoup avec un confrère qui avait été gladiateur. Je ne sais plus ce qu'il... c'est celui-là. Et puis, alors, il y a un peu de... Bon, ils discutaient beaucoup ensemble, et celui-là qui avait été gladiateur avait un passé pas très glorieux, et une fois qu'ils se sont disputés, il lui a répondu, il lui a fait remarquer ses origines pas très glorieuses. Alors, et puis, après, celui-là qui est mort. Et Rabbi Yohanan, très, très embêté, quoi, parce qu'il n'avait plus d'interlocuteur pour discuter, alors on lui en a trouvé, hein, ça va. Qui a discuté avec lui pour qu'il continue quand même à chercher, à débattre, à trouver des choses nouvelles, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Et puis l'autre lui disait, ah ben oui, ah maître, ben oui, t'as raison. Ah ben oui, oui t'as raison. T'as raison. Finalement, le pauvre Rabbi Yohanan, il en est mort d'avoir toujours raison. C'est dangereux, les gens qui ont toujours raison.
Donc oui, non, vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur la question de déicide. Alors que l'accusation contre le peuple juif ait été abandonnée, très bien. On voit bien les limites logiques du concept de déicide, mais j'aimerais bien connaître sa place théologique. Est-ce que le déicide joue encore un rôle dans le dogme? Quel est son devenir? Quelle est sa place aujourd'hui?
Non, non. Enfin, je vais essayer moi de m'exprimer comme je pense. Bon, premièrement, on affirme très fort que si le Christ est mort, c'est, disons, il a affronté le refus global de l'humanité, le refus global de l'allégeance de l'humanité au Dieu d'Israël, en gros. Hein. C'est ça. Il a porté ça. En solidarité avec, non pas pour le payer par une somme de souffrance, hein, mais en solidarité avec. Donc, il a, au point de vue chrétien, hein, donc comme homme reconnu comme Messie, il a ouvert un chemin qui va jusqu'à la présence de Dieu dans une confiance absolue. Et ce qu'il a porté... On pourrait dire, enfin, je parle d'un point de vue chrétien, c'est difficile, vraiment, on est au cœur des choses les plus difficiles, là. Mais ce qu'il a porté, c'est vraiment le refus d'une vision chrétienne. Hein. C'est vraiment le refus d'une humanité, il a passé à travers, il a été solidaire des souffrances que ça implique, hein. C'est un refus de notre humanité, en gros, d'accueillir à la fois la transcendance de Dieu, ce Dieu un, qui nous rassemble, qui donne vie, qui nous permet, qui nous ouvre un avenir, parce qu'on veut être soi-même. Hein, c'est le refus fondamental. Et là, bon, je peux dire que, là encore, je vais arriver à une période difficile et sombre, mais récente, mais finalement, moi, je fais aussi un rapport. Hein, l'énorme masse indicible de souffrance qui a été imposée aux Juifs avec les massacres de la Shoah, c'était bien parce que ils représentaient, enfin, ces juifs, vous juifs hein, qui êtes là aussi, vous continuez à le faire, hein, ils représentaient cette entrée dans notre monde humain, dans la sphère, même dans la sphère créée, on pourrait dire, hein, cette entrée d'une transcendance le joug du royaume, enfin la seule puissance que l'on puisse, sur laquelle on puisse porter allégeance sans se renier, mais au contraire en étant debout, il la refusait. Et cette souffrance, à mon avis, cette souffrance des Juifs s'explique, enfin s'explique, le mot est mal choisi peut-être, hein, mais se comprend, oui, du point de vue nazi, hein, il fallait écraser, et puis c'était aussi une volonté de faire souffrir en même temps. C'était pas simplement de faire disparaître, hein, c'était réduire à rien, et tout ça, parce que ils étaient porteurs, ils sont porteurs de cette seule puissance, alors, de cette seule puissance qui pouvait nous faire vivre. Il fallait la supprimer en supprimant ce qui permettait l'ouverture de ce don. Et pour moi, le Christ, finalement, enfin, si vous voulez, hein, il est en communion avec ceci, voilà, avec cette communion, en supportant cette volonté, mais en passant à travers, en allant plus loin, un petit peu comme, pourquoi pas, hein, comme ces Juifs qui rentraient dans la chambre de gaz en disant « Shema Israël », ils exprimaient déjà cette victoire aussi. Voilà. Alors, je n'ai sans doute pas répondu à votre question, parce que c'est pas facile, mais voilà, un peu dans le sens que je sens.
Mais vous pensez vraiment que les nazis réfléchissaient à tout ça ?
Oui.
Ah bon ?
Mais
moi, je pensais qu'en fait, c'était...
Ils ne l'ont jamais dit. Mais tout ce qu'ils ont fait est cohérent avec cette vision-là. Ah bon. Quand même, Hitler a quand même dit, il n'y a pas de peuple élu. Hein. Les Juifs ont inventé la conscience. Ce sont nos ennemis. Hein. Ce sont nos ennemis, mais les premiers... Des ennemis, pourquoi ? Les ennemis de cette idolâtrie de la race, hein, qui voulait se mettre au-dessus de tout et mettre même Dieu avec eux. Enfin, Dieu, c'était un kidnapping de Dieu. Hein, c'est un kidnapping de Dieu, voilà.
Oui,
oui, c'est cohérent.
Alors moi, je pensais que c'était...
Mais ça n'a jamais été dit comme tel. Ça n'a jamais été dit comme tel. Au contraire, il fallait le voiler. Ça fallait dire que les Juifs, c'était des rien, que c'était même pas des hommes, etc. Hein, voilà, que c'était une bonne chose.
Et après les Juifs, ça aurait été les chrétiens.
Ah bah bien sûr.
De toute façon,
c'est clair.
Il voulait faire son Dieu, voilà.
Mais c'est clair. Oui, oui. Mais c'est clair, c'est clair. C'est ça. Ils avaient bien conscience que... Oui. Hitler disait, mais les Ariens, les chrétiens, les Ariens, s'ils sont chrétiens, mais ça ne tient pas. Si on, alors, ça voulait dire, si on supprime la source, si on supprime les Juifs...
Voilà, c'est ça.
Il y a d'autres réflexions.
Ça vous donnera envie d'étudier un peu plus Nostra Aetate et puis ce travail en profondeur, effectivement, de nos relations et de cette ouverture, surtout. C'est une bénédiction, ça.
Oui, oui, quand même.
Ouais.
Quelque chose de fort qui s'est passé.
Oui, très très fort. Alors je pense qu'on va remercier notre ami d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci. Puis on vous souhaite une belle journée demain parce que vous êtes un peu savoyard. Hein,
c'est ouais, ça. J'ai de la famille, oui.
Voilà.
J'ai un beau-frère à La Roche-sur-Foron, à Réto. J'ai un frère à Cercy-Criseuil. J'ai une sœur ici à Mété. Alors, du monde.
Vous êtes chez vous ici, vraiment. Ouais. Vous êtes chez vous.
Ouais.
Ben, merci encore. Ouais. Et puis, bon retour et belle journée demain. Ouais. Et belle
merci
fête.
Aussi,
alors, belle fête de Noël. Moi, je vous souhaite à tous une belle fête de Noël, de belles fêtes de fin d'année. Non, pas d'annonce. Si, une seule, notre prochaine rencontre avec Gérard, le 12 janvier. Pardon ?
Il y en a une autre.
Dernier jour pour les... Oh si ! Alors, moi, une fois, excusez-moi, mais une fois que je suis dans le spirituel et là-dedans, j'oublie le matériel. S'il y a encore des personnes qui ont la générosité de nous donner encore... si elles ne l'ont pas fait, leur cotisation pour l'amitié judéo-chrétienne de France, c'est encore à temps, j'envoie tout demain. Voilà, j'envoie tout à Paris demain. Voilà, demain, après-demain ou plus tard, parce que après, c'est une histoire de papier à mettre en route, comptabilité et CERFA à obtenir. Mais je pense que presque tout le monde a. Tu veux que je te l'avance? Je te l'avance, puis tu me. Bah, on voit avec Norbert. Non, mais je vais le faire. Marie, oui. Bah, merci en tout cas. Merci à tous et bonne suite. Que tout aille au mieux pour cette fin d'année et au bonheur de se retrouver très vite en début d'année. Comme ça, on pourra se souhaiter une nouvelle année. Si, j'ai quand même une chose à vous dire. Voyez que ça vous manque. Finalement, vous ne partez pas. Une super bonne nouvelle. Philippe Haddad vient le dimanche 4 décembre 2016, si vous voulez le noter. Parce qu'imaginez-vous que ce matin, j'étais à la Puya, eh bien, j'ai déjà réservé la salle parce qu'apparemment, il fallait déjà le faire. Alors, Philippe Haddad est un des rabbins qui a signé, mais surtout, c'est un rabbin qui a écrit le Notre Père. Il a écrit une lecture juive des évangiles, il a écrit Élie et Jonas, il a écrit énormément de choses, on va dire d'un travail merveilleux entre le judaïsme et le christianisme, et il va nous parler de la prière dans nos deux traditions. Alors toute la journée du dimanche, il m'a mis, on étudiera le matin, enseignement, questions, repas, j'apporte ma guitare, on chante. L'après-midi, travail, questions, et on termine. Voilà. Il est rabbin à Paris, aux Ulis. Il est surtout très très engagé dans l'amitié judéo-chrétienne. Et c'est vraiment, je vous invite à venir parce que c'est un homme merveilleux. Beaucoup le connaissent ici, et donc voilà. Donc, non, il y a Gérard Haddad qui est un psychanalyste et ils ne sont pas parents. Et des Haddad, imaginez-vous qu'il y a même des musulmans qui s'appellent Haddad. Alors c'est un nom d'Afrique du Nord, effectivement. Ça veut dire forgeron en arabe. Voilà. Ah oui, alors il est très fin connaisseur des évangiles, dit Jean-Marc, et c'est vrai de le souligner, parce que justement, quand il fait une lecture juive des évangiles, il a lu les évangiles profondément et il y tire tout ce qu'il peut comprendre en tant que juif, mais aussi comment ça a pu se mettre en place pour le monde chrétien. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Donc, d'ici là...
Vous pouvez le retrouver sur le site parce qu'il y a plusieurs conférences. Vous pouvez le retrouver dans ses livres parce qu'il a des tout petits livres qui sont d'une densité extraordinaire, qui coûtent 10 €.
Ouais.
Et c'est extraordinaire.
Et donc, d'ici là, on va certainement, et même sûr, en janvier, se réunir le petit conseil d'administration pour proposer, pour chercher ensemble un thème pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose, ou quelques-uns, qui souhaitent quelque chose en particulier pour l'année prochaine. Alors, notre ami Jean Massenet écrit un très grand article et plus un travail, mais qui se fait aussi sur Paris au niveau du comité directeur avec Alain Massini, le pasteur, et deux autres amis, trois amis catholiques et juifs, sur le nom que les juifs on fait à Jésus, c'est-à-dire sa non-reconnaissance, un nom. Moi, je me souviens, on m'avait proposé ça pour l'Assemblée Générale et j'avais dit, je ne veux pas rentrer dans... J'avais dit non. Je ne veux pas rentrer dans cette difficulté qui peut être une polémique et trouver les gens qui puissent en parler bon, pour une Assemblée Générale. Par contre, le travail que vous avez fait, il est sur... vous allez sur AJC Lyon, vous allez trouver le travail qu'a fait Jean. Et c'est remarquable. Et je me disais, pourquoi pas aussi une conférence là-dessus, parce que ça remet beaucoup en questionnement et historique et théologique. Vous l'avez fait surtout, vous, théologique, et c'est magnifique. Historique aussi. Alors ça, ce serait une soirée. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on tournerait un petit peu entre la prière pour Philippe Haddad, entre cela. Si vous avez des idées, qu'il y a des choses, vous m'appelez, vous me mettez un mail et on prend en compte, voilà, pour faire notre programme, dès janvier-février, le programme doit être fait pour trouver les conférenciers, voilà, comme tous les ans. Merci et à bientôt.
J'espérais qu'il est le seul dans sa communauté à porter ça, parce que je m'inquiète sur ma frangine et mon beau.